CFM, le mag, tous les jours, 17h-17h30, la vie du Tarn-et-Garonne.
Et bonjour, dans ce mag du Tarn-et-Garonne d'aujourd'hui, on prend des nouvelles de nos jeunes dans ce contexte de Covid avec l'infirmière au lycée Bourdel de Montauban. Je recevrai ensuite l'association Mère 82 pour la mémoire de l'Espagne républicaine qui nous incite à venir à une cérémonie du souvenir devant la stèle de la gare de Caussade, rue des Républicains Espagnols. Mais avant ça, on est mercredi, le mercredi, la nature en question.
Pourquoi les feuilles tombent en automne?
Moi je dis que c'est peut-être que c'est pour parce qu'il...
Pourquoi les mouches peuvent marcher au plafond?
Parce qu'ils ont des...
Pourquoi les chauves-souris dorment la tête en bas? Pourquoi les zèbres ont-ils des rayures?
Mais en fait c'est pour, je crois c'est pour s'adapter, je sais pas.
Bonjour, je m'appelle Maëlia, j'ai 8 ans et je voudrais savoir si le musée prend feu, que fait-on?
Si un musée brûle, à mon avis, tout le monde est très triste.
Ils sont tristes, je sais pas, ils sont malheureux.
Bonjour, je suis Kevin Maurer, le médiateur scientifique du Muséum Victor Brun et je vais essayer de répondre à ta question. Alors lorsqu'il y a un incendie, par exemple, les musées travaillent avec les services de sécurité publique, c'est-à-dire la police, les pompiers, et agissent selon un protocole. Tout d'abord, il faut sauver les gens qui peuvent également éventuellement être dans le musée. Si le musée prend feu alors qu'il y a du public, il faut les évacuer via les sorties de secours. Normalement, les capteurs de fumée auront déclenché l'alarme, donc les visiteurs seront prévenus, et certains membres du muséum auront alors pour mission de les conduire vers les sorties de secours, de vérifier qu'il ne reste plus personne dans le musée, et une autre personne se chargera de prévenir les pompiers. Et lorsque les pompiers arriveront pour éteindre l'incendie, c'est à ce moment-là que certains spécimens pourront également être sauvés des flammes. Alors malheureusement, on ne pourra pas tout sauver, hein. Il y a 2500 objets dans le musée, il faudra donc faire un choix. Et ce choix, il se fait en fonction de l'importance des collections. Pour le muséum de Montauban, c'est la météorite d'orgueil qui sera vraiment sauvée en priorité car c'est l'objet le plus précieux du musée. En plus, elle est facile à transporter. Ensuite, ce sera les spécimens qu'on appelle des types qui seront ensuite sauvés. Ce sont des spécimens très importants pour la science car ils ont servi à décrire une espèce. Ensuite, nous sauverons les espèces disparues car si ce spécimen est détruit, vu que l'espèce a disparu, on ne pourra plus jamais en avoir un autre. Au muséum, nous avons 3 espèces disparues. Et enfin, nous sauverons les espèces en voie de disparition pour les mêmes raisons que les espèces disparues.
Merci et à la semaine prochaine pour une autre question.
Ça, c'était une question drôlement intelligente. Vous aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Envoyez vos questions à CFM.
CFM. CFM, la suite du mag depuis Montauban avec un reportage d'Hugo Martin. Sur ses condisciples, Hugo Martin, il est en stage à CFM Montauban et prend des nouvelles de la santé mentale des jeunes dans ce contexte Covid.
Un jeune sur deux est inquiet pour sa santé mentale, selon un rapport parlementaire publié le mois dernier. La crise sanitaire a dégradé l'état de santé psychologique des élèves et les lycéens de Montauban n'échappent pas à la règle.
C'était un peu le moral en berne ou quoi?
Ouais, totalement, c'est totalement ça. Depuis qu'on est en demi-groupe, on va dire que nos classes, dans nos classes, tous les élèves, ils sont à moitié en dépression, je pense. C'est difficile pour nous tous.
Ouais, et est-ce que tu crains que ce nouveau couvre-feu, ça puisse encore accentuer ce mal-être?
Ça nous empêche de sortir encore plus, donc au niveau social, c'est pas top, mais sinon, niveau lycée, ça change pas grand-chose.
Ouais. Et est-ce que tu essaies de faire des choix, des choses, du sport, essayer un truc pour essayer de te vider la tête, de passer à autre chose?
On n'a pas trop le temps, vu que je suis en terminale, le week-end on a des devoirs, on a des visios, etc. Donc on n'a pas trop le temps de sortir ou de faire des activités.
Ouais. T'es anxieuse vraiment par rapport au bac et tout? Tu penses que, je sais pas, peut-être qu'il n'y a pas assez de cours ou c'est trop compliqué de se concentrer en visio?
Ouais, surtout qu'on ne sait toujours pas s'il va être gardé ou pas le bac, donc ouais, ça stresse.
Il y a 10 à 20% des jeunes qui seraient en détresse psychologique. Est-ce que toi tu sens qu'en ce moment t'as un peu le moral en berne?
Pas du tout, absolument pas. Le confinement, pseudo-confinement, le couvre-feu, je trouve ça un petit peu ça... C'est un petit peu relou, on va dire ça. Mais non, ça va.
Du coup, toi t'es pas inquiet, je sais pas, par rapport au fait qu'il y ait des cours en visio, ça te dérange pas? T'as pas du mal à te concentrer ou...
Non, moi j'arrive très bien. Bah, après, j'ai un bon univers chez moi, donc ça va pour les cours. Mais moi j'arrive bien à travailler chez moi, ça me dérange absolument pas.
D'après ce même rapport parlementaire, l'accompagnement des élèves à l'école est primordial. Laurence Pagès est infirmière au lycée Bourdal de Montauban. Elle est une oreille attentive aux angoisses des élèves.
Alors, c'est une ambiance un peu particulière, puisqu'on a, entre guillemets, un peu plus de temps que d'habitude, puisque le lycée fonctionne en moitié classe, sauf pour les classes prépa, mais bon, eux, on les voit plus rarement, entre guillemets. Et ce qui arrive jusqu'à nous, en fait, c'est avec une problématique très particulière, où le confinement ou les périodes post-confinement sont difficiles à passer. On essaie d'anticiper parce que certains ont peur du virus. Alors pas tant pour eux, je pense que moi je les trouve pas très inquiets pour eux-mêmes, mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup de parents qui sont fragilisés, une personne vulnérable de par certaines pathologies, surtout des grands-parents, et on les sent inquiets par rapport à ce virus. On a quelques inquiétudes aussi sur le futur, surtout pour tous ces élèves qui peuvent pas faire de stage, et qui là il va bien falloir statuer sur comment finir l'année s'ils n'ont pas de stage et comment la valider. Beaucoup, puisqu'ils viennent que des moitiés de semaine, ont des difficultés à rester sur leur domicile, hein, avec les parents plus ou moins sur le dos. Là aussi, on n'a pas les parents qui sont au même niveau d'accompagnement sur cette situation.
Et il y a ces jeunes qui du coup ont une vie sociale nulle ou quasi nulle. Qu'est-ce que vous leur conseillez ?
Alors, déjà, dans un premier temps, on les écoute. On les écoute un petit peu un maximum, quoi. On essaye de cerner un petit peu sur quel moment de leur personnalité ils ont un petit peu vrillé. Parce que c'est vrai que d'être toujours sur les réseaux sociaux, sur Internet, ça peut entraîner certaines addictions, justement, aux réseaux sociaux, avec des conduites à risque, de pouvoir s'enfermer peut-être dans des attitudes où le cannabis va prendre une part plus importante pour ces là. Alors donc on les écoute déjà un maximum, on essaie d'aborder des sujets, des discussions directes, quoi, pour justement voir un petit peu où ils en sont au niveau de leurs émotions, parce que c'est vrai qu'ils sont habitués un petit peu à planquer ce comment ils sont réellement au niveau des réseaux sociaux, ou alors ils se lâchent complètement. Et après, en conseil, déjà, on essaye de les mobiliser un maximum pour qu'ils reviennent de manière très régulière sur leur journée de cours au lycée. On leur demande de discuter un maximum avec leurs professeurs, avec les collègues, de pas être réfugiés dans leur portable constamment. Et ça, bon, je sais pas quel âge vous avez vous-même, mais vous savez très bien que dès qu'ils sortent de cours, ils sont tous chanqués sur leur portable. Et c'est vrai que le manque de discussion leur manque beaucoup. Après, on essaye de les convaincre d'avoir une alimentation correcte, ce qui est pas gagné pour beaucoup. D'être un petit peu à l'extérieur, de marcher, de pas rester trop statique parce qu'ils ont très peu d'heures de sport. Et c'est vrai que ça leur manque beaucoup. Voilà. On essaye de leur demander d'avoir des discussions avec leurs parents. Mais c'est vrai que leurs parents, déjà, à l'âge du lycée, pour beaucoup, ils discutaient pas beaucoup avec leurs enfants. Donc reprendre maintenant un niveau de communication un petit peu correct, c'est compliqué aussi. Voilà. Donc ça induit des situations familiales un petit peu tendues. Donc le conseil, c'est vraiment de communiquer, de pas perdre le lien avec le lycée, de se projeter un tant soit peu sur l'avenir pour justement faire en sorte de leur faire comprendre à nouveau qu'ils travaillent pour eux et que bon, ils sont pas en grande vacances, quoi.
Merci à Laurence Pagès, infirmière au lycée Bourdal de Montauban. Anxiété, harcèlement, addiction, sexualité sont quelques-uns des thèmes abordés sur le site filsantéjeune.com. On y trouve aussi un numéro d'aide anonyme et gratuit, le 0800 235 236, ouvert tous les jours de 9h à 23h.
Merci Hugo Martin pour CFM Montauban. La suite du MAG avec l'association Mère 82 Mémoire de l'Espagne républicaine. Ce vendredi 29 janvier, c'est l'anniversaire de l'arrivée du premier train en gare de Caussade depuis Cerbère. Mémoire espagnole républicaine, donc juste après la musique. You cut out a piece of me and now I bleed internally, left it without you, without you.
And it hurts for me to think about what life could possibly be like without you, without you. I can't believe that you would have been leaving. Fuck all of your reasons. I lost my shit, you know I didn't mean it. Now I see it, you run and repeat it. And I can't take it back, so in the past is where we'll leave it. So there you go, oh. Can't make a wife out of a hoe, oh. I'll never find the words to say I'm sorry, but I'm scared to be alone. You cut out a piece of me and now I bleed internally. Left it without you, without you. And it hurts for me to think about what life could possibly be like without you, without you. You go. I really wish that we could have got this right. So here I go, oh, can't make a wife out of a hoe, oh. I'll never find the words to say I'm sorry, but I'm scared to be alone. You cut out a piece of me and now I bleed internally. Left it without you, without.
CFM, le MAG, tous les jours, 17h-17h30, la vie du Tarn-et-Garonne.
Une cérémonie au programme de ce vendredi, une cérémonie du souvenir à Caussade devant la gare rue des Républicains Espagnols. Une cérémonie dont on va parler aujourd'hui avec José González, bonjour.
Bonjour.
Vous faites partie du MER 82, Mémoire de l'Espagne républicaine du Tarn-et-Garonne. Une cérémonie du souvenir qui célèbre donc l'arrivée du premier train à Caussade en 1939. Dans quel contexte, José González?
Alors nous sommes en janvier 1939. C'est la Catalogne est en train de tomber. Hein, nous sommes à quelques mois de la fin de la guerre, qui elle finira le 1er avril. Mais le 29, d'abord la frontière est fermée, mais le 29 janvier elle va s'ouvrir pour laisser passer en France les premiers convois de civils, un des premiers convois composé de femmes, d'enfants, de vieillards, de blessés, et ce premier train qui va partir du Cerbère, directement de la frontière, va venir jusqu'à Caussade pour y déposer ces gens qui vont être orientés vers des refuges. Nous avons d'ailleurs un de nos adhérents qui avait 11 mois à l'époque et qui se rappelle bien de cet épisode. Alors il reste très peu de gens aujourd'hui de cette histoire. Rappelons aussi quand même que 2021, c'est le 90e anniversaire de l'arrivée en Espagne de la Deuxième République, le 14 avril 1931. Donc nous sommes dans ces 90 ans et nous tenons donc toute cette année, il y aura, et à essayer de marquer ces événements, le premier étant l'arrivée de ces exilés en gare de Caussade.
En 1939, donc à propos d'Espagne républicaine, alors Caussade n'est pas le seul endroit où sont arrivés des trains, et puis les Espagnols ne sont pas les seuls à être arrivés via ces trains. On parle d'une époque sombre.
Oui. Oui, oui. Ben, c'est une époque sombre. Je dirais que c'est une des conséquences de la montée du fascisme dans toute l'Europe, où il y a effectivement, au fur et à mesure que l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste envahissent des territoires, il y a partout, hein, et puis la France étant cette terre d'accueil, il y a partout des gens qui arrivent de tous les pays, d'Autriche, de tous les les anciens pays de l'Est qui vont venir en France. Mais en Espagne, la particularité, c'est que cette deuxième guerre mondiale, en notre sens, commence en Espagne où effectivement l'intervention allemande et italienne venant en aide au fascisme espagnol va être décisive dans le fait que la République va perdre cette guerre.
José González, je disais, vous faites partie de l'association Mère 82, Mémoire de l'Espagne républicaine du Tarn-et-Garonne, mais aussi de ce regroupement de plusieurs associations autour de ce sujet, le CIMER, Centre d'interprétation et d'investigation de la mémoire espagnole républicaine. Il y a du travail niveau instigation.
Oui, beaucoup de travail, parce que c'est une histoire qui est très peu connue. Et à notre sens, quand elle est connue ou présentée, elle est souvent dans des termes qui ne nous conviennent pas. Parce que, par exemple, pour prendre l'exemple le plus caricatural, comme chacun sait, il y a une stèle à Sept-Fonds qui rappelle le camp de concentration de Sept-Fonds.
Alors, concentration n'est pas le mot concentration.
Alors, c'est le mot que nous employons, parce que c'est ce que nous trouvons dans les archives. Hein. Moi, partout où je regarde, sur les journaux de l'époque, sur les cartes postales que les gens écrivent, ils donnent comme adresse camp de concentration de Sept-Fonds et personne ne s'y trompe. Quand le préfet de l'Allier envoie des Espagnols au camp de concentration de Sept-Fonds, il le met en ces termes et le commandant du camp, il lui répond « Moi, commandant du camp, j'ai bien reçu l'envoi de tel Espagnol et il dit lui-même camp de concentration. » Enfin voilà, pour nous le terme qui est aujourd'hui le terme qu'on essayait d'employer et d'imposer, c'est internement, ce qui ne veut absolument rien dire. L'internement, c'est pas ces cas-là, en tout cas, et même le ministre à l'époque le disait, Saro, dans une conférence de presse, ce ne seront pas des camps de prisonniers, disait-il, ce seront des camps de concentration. L'idée étant évidemment de concentrer les Espagnols avec l'idée de les renvoyer. Alors je sais bien que depuis, le mot « concentration » a pris une connotation beaucoup plus péjorative du fait des camps allemands. Mais moi, je ne parle pas de camps d'extermination. Il n'empêche qu'en France, il y a eu des camps de concentration français, si l'on veut faire la différence, on l'emploie comme ça. Ça n'est pas un terme...
Dont le camp de Jude, à Sept-Fonds, donc.
Oui, c'est le camp de Jude à Sept-Fonds. Mais il y a eu, pendant la Première Guerre mondiale, des camps de concentration français où on mettait les prisonniers allemands, etc. Vous voyez, c'est un terme qui est le terme de l'histoire.
Et donc, le travail d'investigation, par exemple, à Sept-Fonds?
Voilà, le travail d'investigation, ben, ça consiste d'abord à recueillir des témoignages, ils sont nombreux, mais effectivement à donner des éléments de cette histoire qui sont très peu connus, et en tout cas dans des termes, je le disais, qui nous paraissent beaucoup plus justes. L'Espagne, appeler cette guerre une guerre civile nous paraît un peu court, parce que si l'Espagne a fait une guerre, il y a eu une guerre civile, que faisons-nous des centaines de milliers d'Italiens, d'Allemands, de Marocains, de Portugais? Donc, de notre point de vue, ce centre d'investigation et d'interprétation de la mémoire, nous souhaitons que les choses soient racontées avec des mots justes. Et autant en France, il n'y a pas eu de guerre civile, et pourtant c'est bien ce que dit l'historien Amouroux, la guerre civile en France, non, en France c'est la bataille de France, c'est ainsi que l'histoire l'a retenue. Aussi, nous souhaitons que ce soit la guerre d'Espagne et non une guerre civile qui rapetisse beaucoup la réalité de ce conflit et qui arrange beaucoup les vainqueurs, parce qu'effectivement, ça arrange les vainqueurs parce qu'ils ont gagné cette guerre prétendument tout seuls, et ça arrange aussi les gens de l'intervention parce qu'ils peuvent dire, voyez, c'est une affaire intérieure, on a bien fait de ne pas nous en mêler. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui, pour nous, sont importantes à dire dans des termes des vainqueurs et pas les vaincus. C'est vrai que l'histoire a été écrite par les vainqueurs et nous souhaitons que la parole des gens qui ont perdu cette guerre soit aussi prise en compte.
Et cette parole est prise grâce notamment à des échanges entre la France et l'Espagne tout au long de l'année, des nombreuses animations proposées par l'association Mère 82 auprès du grand public que des scolaires, des marches mémorielles et la réhabilitation de la gare de Boredon. Alors pour ce vendredi, on est bien à la gare de Caussade, mais la gare de Boredon, parlez donc en nous un petit peu.
Oui, ben cette gare, c'est cette gare qui a reçu tous ces soldats de la République, hein, parce que c'est la réalité, c'est ça. Hein, les civils sont arrivés le 29 janvier, comme je vous l'ai dit, mais les trains suivants seront des trains de soldats de la République qui, une fois qu'ils ont rempli les camps de la côte, vont être adressés à partir du 5 mars, pour le coup, on n'est plus en janvier, on est en mars, vont être amenés pour être emprisonnés au camp de concentration de Jude. Et ce sont des soldats de la République, et non pas, comme le dit la stèle sur le camp, des miliciens. Pas du tout. Ces gens ne sont pas des miliciens. Les milices ont été dissoutes dès 1937. Donc il y a déjà bien longtemps que les milices n'existent plus en Espagne. C'est l'armée de la République, Ejército Popular de la República, et ce sont ces soldats-là qui sont enfermés.
Alors vous nous parliez de la stèle du camp de cette fond. On en parle?
On en parle, c'est quelque chose... Nous ne cessons de dire ce qu'il y a sur cette stèle que des milliers de visiteurs et de jeunes voient, il y a des erreurs totales. Par exemple, il y a écrit « à la chute de la République espagnole en janvier 1939 ». Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La guerre d'Espagne, elle finit le 1er avril. Pas en janvier, pas plus en février, comme c'est à la Maison de la Mémoire, la Mounaide de cette fond. Et ça n'est pas sans raison que ces dates ont été mises en avant, parce que malheureusement, la France va reconnaître, la Troisième République va reconnaître le régime de Franco le 27 février. Et donc, si on commence à dire que la guerre a été finie en janvier ou en février, ça donne un peu l'idée que c'était pas si grave. Et pourtant, c'est gravissime que le 27 février, la République française reconnaisse le généralissime Franco à Burgos, où il mettra encore plus d'un mois à finir sa conquête.
Et cette stèle sur le camp de Jude qui côtoie donc des cochons, une porcherie.
Ça, c'est un autre scandale qui est, que nous ne cesserons de dénoncer. Parce que vraiment, c'est lamentable que, ne serait-ce que pour la dignité humaine, ces jeunes, alors je comprends qu'on leur a dit des bêtises, donc ils n'ont pas trouvé ça tellement extraordinaire, veuillent monter sur ce terrain que fut le camp, une porcherie industrielle de 6500 porcs à l'année, et répandre ce lisier sur la tête de nos pères. Ça, vraiment, c'est insensé. Alors, il y a cette ferme, et il y a eu quelques porcs. Enfin, c'était une ferme familiale. Aujourd'hui, c'est en train de devenir une industrie. Et vraiment, nous n'acceptons plus, parce qu'en 1995, il y avait eu un statu quo et un accord que nos pères à grand-peine avaient obtenu d'en rester là. Et aujourd'hui, on a, c'est un manquement à la parole donnée, et donc nous n'acceptons plus, et nous ne voulons même plus qu'il y en ait un cochon. Cette porcherie, si elle voit le jour, nous continuerons à nous battre, et nous irons aussi loin qu'il le faudra pour faire avoir des droits qui font partie de l'histoire. C'est pas normal que dans un camp de concentration, puisque c'est son nom français, on ait l'idée de mettre une porcherie. C'est lamentable.
Beaucoup de travail pour cette année 2021 pour l'association Mère 82 Mémoire de l'Espagne républicaine du Tarn-et-Garonne, sachant qu'en plus 2020 a été plutôt sombre, plutôt flou, et puis on a loupé une bonne nouvelle concernant des arbres de Guernica.
Oui, alors on avait un certain nombre de projets, j'espère qu'ils vont aboutir, hein, c'est de pouvoir, avec les échanges que nous avons avec les associations espagnoles, hein, qui sont également des associations membres du CIMER, on avait envisagé un certain nombre d'actes symboliques, comme la plantation d'un arbre de Guernica, comme des expositions sur Montauban à propos de Centelles, qui a été un des photographes qui a pris des photos à l'intérieur du camp, où il était à l'époque interné. Et donc, toutes ces animations, le public qui venait, les enfants, les écoles, nous n'avons pas pu cette année mener à bien toutes ces activités. Nous allons relancer tout ça pour 2021 en espérant qu'on arrivera. Puis on avait tous les ans un voyage et que tous les gens attendent avec impatience autour de cette mémoire en Espagne. Cette année, c'était Madrid. Vous voyez dans quelles conditions on est. Voilà, donc il y a une vraie difficulté pour notre association. Heureusement, nous avons des adhérents fidèles, mais notre activité a pris un coup.
En attendant, le rendez-vous, c'est ce vendredi pour l'arrivée du premier train à Caussade, cette date anniversaire depuis 1939. Donc le rendez-vous, pardon, il a quelle heure, José González, le président du Mer 82?
Alors entre 11h et 11h30, évidemment avec tous les critères de distanciation sociale, de masque et compagnie en général.
Il n'y aura pas le pot habituel.
Voilà, il n'y aura pas le repas que nous faisions à la suite. Mais bon, nous allons en tout cas absolument marquer cette date comme nous le faisons tous les ans.
Merci beaucoup. Le président de l'association Mémoire de l'Espagne républicaine du Tarn-et-Garonne, José González.
Merci à vous.
Retrouvez dès tout de suite ce mag en podcast sur cfmradio.fr, rubrique le mag Kersi Rouergue.